témoignage écossais.
Une idée du Suprême Conseil pour la France.
Présenté par Stéphane de Mazur et Claude Guichard.
Il est important que nous soyons conscients de tout cela et qu'on se rende compte que nous sommes bien dans une grande loge qui propose une voie spirituelle, initiatique, traditionnelle, mais au XXIe siècle et dans la modernité.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Témoignages écossais consacré aujourd'hui à une personnalité et à une fonction qui n'ont encore jamais franchi les portes de notre studio depuis la création de ce programme. Sans vouloir créer un inutile suspense, je dirais que notre invité a été initié au rite français au Grand Orient de France en 1989, qu'il a ensuite intégré la GLNF en 2006, puis la GLAMF, la GLAMF, en 2012, lors de la consécration de cette nouvelle obédience, et qu'au sein de la GLAMF, il a notamment occupé la fonction d'assistant grand maître de la Maison du Rite français, avant de devenir, le 6 janvier dernier, son sixième grand maître. Pierre Lucet, bonjour.
Eh bien, bonjour à tous et merci de cette initiative qui est pour moi également une grande première.
Merci d'avoir accepté notre invitation et d'accorder ta première interview audio auprès de notre émission qui, bien qu'écossaise dans sa dénomination, n'est aucunement exclusive dans sa diffusion. Et je salue bien évidemment Claude Guichard. Bonjour Claude.
Bonjour Stéphane. Bonjour
Comment Pierre. Vas-tu ? Et j'espère que tu n'es pas comme moi trop impressionné par la succession des personnalités devant nos micros. Après un ancien grand commandeur du Suprême Conseil pour la France, nous voici en compagnie du grand maître de notre obédience préférée.
Oui, c'est vrai qu'on ne se refuse rien. Mais Témoignages écossais reçoit toujours des invités prestigieux, prestigieux par leur esprit, par leur parcours, par leur position. Et aujourd'hui s'ajoute une originalité, c'est-à-dire qu'à ma connaissance, peu de grands maîtres ont accepté de répondre comme ça à des questions sur une antenne radio. Et qui plus est, un support de communication qui appartient à une juridiction.
Oui, oui, c'est une grande première dans tous les sens en fait. Et nous avons un invité surprise qui ne sera dévoilé qu'à la fin de l'émission. Restez à l'écoute. Alors Pierre, cela fait maintenant un peu plus de 100 jours que tu es à la tête de l'obédience. Quel premier bilan, quelles premières impressions peux-tu en tirer? J'allais dire s'il n'est pas trop tôt pour le faire, parce qu'à ce stade, on pourrait peut-être encore parler de projet.
Bien écoute, le précédent grand maître m'avait averti sur la charge de travail d'un grand maître. Et sur ce sujet-là, non plus, ils m'ont pas menti. La charge est importante, mais elle est toujours valorisée par l'accueil des frères. Je visite des loges toutes les semaines. J'ai toujours un événement les week-ends. À titre d'anecdote, j'ai eu un seul week-end de libre depuis mon installation. C'était le week-end de Pâques. Il se passait rien. En maçonnerie. Et mon agenda est plein jusqu'à la fin juin. Je compte sur l'imagination des frères et des grandes loges amies pour remplir le second semestre à la même vitesse à laquelle ils ont rempli le premier semestre. Mais quand je visite une loge, quand je rencontre une grande loge, il y a tellement d'amour de transmis que finalement la fatigue disparaît parce qu'elle est remplacée par cet amour. Et puis, les frères sont contents de voir le grand maître. Alors je fais attention, je sais que c'est pas Pierre Lucet qu'ils sont contents de voir, c'est la fonction qu'ils sont contents de voir. Mais cette fonction-là, si on ne va pas vers les frères, je pense pas que ça serve à quelque chose de vouloir la faire.
Pierre, j'essaye parfois de glisser une question idiote, alors je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Hein. En voici une. Alors Pierre, c'est quoi un grand maître? Je t'ai entendu un jour poser la question sur le rôle du grand maître. Et tu disais que l'idée était de faire la part des choses entre un gestionnaire de syndic des trois premiers étages de l'immeuble maçonnique et un guide spirituel. Alors, tu te situes où ?
Bah, cher Stéphane, c'est vrai que c'est une belle question.
Ah, t'as vu, hein ?
Oh, magnifique. L'Alliance a 12 ans. Il est normal que tous mes prédécesseurs se soient concentrés à la construction et à la consolidation de l'édifice. Le travail qui a été fait est exemplaire. Nous sommes aujourd'hui la quatrième, peut-être la cinquième obédience en France. Le travail de syndic doit continuer pour ne pas nous fragiliser. Mais nous devons aussi entrer dans une nouvelle dimension. Celle de nous faire mieux connaître et celle de partager notre identité. Il faut que l'on arrête de nous voir comme ses frères partis de la GLNF. De par sa jeunesse et son modernisme, l'Alliance est la grande loge initiatique de tradition spirituelle, mais qui est ancrée dans notre temps, qui est ancrée dans le XXIe siècle. J'ai pas la prétention ni la capacité d'être un guide spirituel. Mon travail est de donner la direction. Cette direction est clairement annoncée dans ma profession de foi. Et c'est sur cela que j'ai été élu. Ce sont les instances qui doivent ouvrir les voies. Je veux ici saluer le formidable travail qu'est en train de mettre en place la Loge nationale de recherche sous la direction de son vénérable Gaston Paul Effa. Ils ont compris la direction dans laquelle je voulais aller, ils ont carte blanche, et je suis persuadé que très rapidement nous aurons de magnifiques résultats à la suite de leurs travaux.
Merci Pierre pour ces précisions. Alors Pierre, aussi une des spécificités de l'obédience que tu présides est de regrouper la pratique de 7 rites en son sein. Je crois qu'il y en a effectivement un 7e qui est arrivé il n'y a pas très longtemps.
Oui, à Deauville, il y a 2 ans, le rite de Memphis-Misraïm.
Alors, selon toi, est-ce qu'il faut y voir une simple démonstration de la formidable variété des modes d'accès à l'initiation maçonnique ou autre chose, notamment, et on en a parlé en préparant cette émission, l'égalité de ces mêmes modes d'accès, donc en fait aucun ne serait supérieur à l'autre, même si certains rites sont, j'allais dire, surreprésentés par rapport à d'autres, mais c'est sans doute pour des raisons historiques.
Et puis c'est pas ici que je vais dire le contraire.
En plus, oui, on est d'accord.
Mais c'est en effet une richesse formidable. Je pense que nous sommes la seule grande loge à proposer à ses frères de travailler dans les 7 principaux rites. Non seulement nos rites nous permettent de choisir notre chemin, mais en plus ils permettent de nous enrichir de nos différences. Je dis souvent que visiter un rite autre que le sien nous permet de comprendre plus facilement des événements de son propre rite. Je vais te donner un exemple. Quand il y a un jeune compagnon dans ma loge, je rappelle que je travaille au rite français, le passage de compagnon est très épuré au rite français. Eh bien, très rapidement, j'essaie de l'emmener dans un rite anglo-saxon, et là, il comprend des choses qu'on lui a montrées, mais différemment. Et c'est un enrichissement incroyable. Alors, pour revenir sur la taille des rites, aucun rite n'est supérieur à l'autre. Ce sont des chemins différents pour accéder au sommet, comme je l'ai dit. Mais là encore, notre Grande Loge a une spécificité très importante. Au Conseil de Grande Loge, le Conseil de Grande Loge, je rappelle que c'est l'organe qui gère toutes les décisions maçonniques de la Grande Loge. Toutes les maisons ont une voix et l'on écoute avec la même importance un représentant d'un rite que sa maison comporte 10 000 frères ou 200. Hier soir, j'étais en tenue. Dans cette tenue, 5 rites étaient présents et 3 obédiences étaient présentes. Et il y avait même un frère de Tahiti. Moi, je trouve que c'est ça l'alliance. C'est ce formidable mélange des frères et qui sont heureux de découvrir et de se rencontrer.
Alors effectivement, tu cites ce nom d'alliance, c'est important, on va en parler, parce que un point important sur lequel nous souhaiterions échanger avec toi est celui d'abord de l'origine de la Grande Loge, de l'Alliance et de son identité. Donc, parce que ça fait effectivement, comme tu l'as dit, 12 ans qu'elle a été portée sur les fonts baptismaux, en réaction, effectivement, certains s'en souviennent encore, à une grave crise structurelle de la GLNF à l'époque. Et j'ai l'impression que nous sommes en train de vivre, notamment avec ton accession à la Grande Maîtrise, en fait une période charnière, en ce sens que cette origine ne serait plus aujourd'hui le seul critère de son identité. Alors, quels seraient les autres ?
Tu as raison de revenir sur cette question, car c'est un point très important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on arrête de dire on est la GLNF et on vient de la GLNF et c'est notre seule image. Il ne faut pas confondre l'histoire et la période actuelle. Clovis est le fondateur de la France. C'est un point historique. Mais en 2024, Clovis, c'est pas la France. On l'a dit. Notre Grande Loge est issue de la GLNF. Mais ça, c'est l'histoire. Dont acte. La période actuelle veut que nous soyons une Grande Loge qui a su profiter de l'expérience de ses frères, qui étaient des frères très expérimentés, parce que on a 12 ans d'expérience, mais on a des frères qui ont plus de 30 ans d'expérience. Et grâce à cette expérience des frères, on a pu se renouveler sans reprendre les égarements du passé. On a dépouillé les rituels du décorum qui les dénaturaient. Nos loges sont indépendantes administrativement et financièrement. Et c'est elles, et elles uniquement, qui votent directement notre mode de fonctionnement et qui votent pour ses dirigeants. Et puis, on a mis aussi des organes de contrôle. Notre organisation est simple est transparente et on a un conseil de surveillance qui fait remarquablement son travail justement pour rendre compte aux frères de l'activité du Bureau national. Et puis, pour une obédience de notre taille, si je me compare à d'autres grandes loges, une obédience de notre taille a à peu près 15 salariés. Nous avons une armée de bénévoles qui travaillent tous les jours pour le bien de nos frères et qui nous permettent de n'avoir que 3 salariés. Et de ce fait, on a une cotisation qui est très abordable par rapport aux grandes loges, aux autres grandes loges, à nos grandes loges amies, voire pas amies, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est aussi, je pense, à notre époque, un élément important que de pouvoir proposer à des frères une cotisation modeste pour qu'ils puissent maçonner. On sait que ça a un coût important pour certains. Il est important que nous soyons conscients de tout cela et qu'on se rende compte que nous sommes bien dans une grande loge qui propose une voie spirituelle, initiatique, traditionnelle, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, au XXIe siècle et dans la modernité.
C'est bien compris. Alors, donc, une autre question concerne aussi donc, l'appellation même de l'obédience. Je t'ai vu tout à l'heure tiquer parce que j'ai fait exprès, j'ai dit GLAMF. Alors, effectivement, cet acronyme qui nous rapproche plus d'une onomatopée phylactérienne, qui effectivement peut être assez moche, comment faudrait-il aujourd'hui la nommer? Il semble que l'Alliance soit devenue le terme générique. On dit souvent l'Alliance ou la Grande Loge de l'Alliance. Mais j'allais dire, quelle est aujourd'hui l'appellation contrôlée ou quelle est celle que tu souhaiterais qui soit pleinement adopté par tout le monde?
Bah, sans aucun contexte. Enfin, déjà, tu avoueras que rien qu'à l'oreille, si je te dis GLAMF ou si je te dis Alliance, je pense que tu vas préférer Alliance.
Nous sommes d'accord.
Mais c'est pas que du marketing, tout ça. On appartient à une grande loge maçonnique française, mais ce qui nous distingue profondément, c'est l'Alliance. C'est l'Alliance des frères avec son grand maître. C'est l'alliance dans nos traditions initiatiques, l'alliance dans nos rites. On l'a vu tout à l'heure, on est la seule à proposer 7 rites. C'est l'alliance avec notre temps moderne et non pas du temps d'il y a 300 ans. Et puis c'est l'alliance aussi, et je pense que ça vous alliez être sensible, c'est l'alliance avec les juridictions. Je mets un point important à travailler avec les juridictions de façon à ce que de concert nous puissions avancer et donner une grande satisfaction à nos frères. C'est l'alliance aussi avec, bien évidemment, les autres obédiences, les autres grandes loges. J'ai très souvent des contacts avec les grands maîtres et les grandes maîtresses d'autres grandes loges. Et même si nous ne partageons pas toujours nos travaux, je peux t'assurer que je m'organise pour que nous ayons des travaux à l'extérieur, mais pour le rayonnement de notre maçonnerie de tradition. Évidemment, c'est l'alliance avec la spiritualité. Nous sommes une obédience spirituelle. Et puis, il y a une alliance qu'il ne faut pas oublier. C'est celle que nous avons tous avec le grand architecte.
Oui, c'est vrai. Et puis, l'alliance a une notion aussi de réciprocité. Si on ne prend que l'exemple du mariage, de l'alliance échangée, on est bien dans un engagement mutuel et réciproque, et pas seulement de la Grande Loge vers, comme tu as pu le dire, vers des structures, ou vers des personnalités, ou vers des concepts, mais aussi bien un retour dans l'autre sens.
Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que je préfère un frère qui me dit qu'il est marié avec l'Alliance plutôt qu'il appartient à l'Alliance.
Oui, c'est dans ce sens-là, exactement. Exactement.
Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions qui arrivent là, parce que c'est la première fois que j'entends l'Alliance détaillée à ce point, et avec une telle force. Permets-moi de te passer ce message. Et tu as commencé par parler de l'Alliance des Frères. Alliance des Frères avec la Grande Loge, Alliance des Frères avec son grand maître. Et je sais que la fraternité, c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Alors, j'ai une question en deux temps. La première, c'est, est-ce que le grand maître se souvient de son initiation, de ce jour-là où ça a été le premier contact avec les frères? Et, deuxième partie, est-ce que ta relation avec les frères a évolué avec le temps?
Alors oui, je me souviens de mon initiation. Je dirais pas comme si c'était hier, parce que c'est avant-hier. C'était une période difficile pour moi, parce que je venais de perdre ma mère. Et le fait de rentrer dans cette association, dans cette fraternité, justement, a été un grand... Une grande aide pour moi. Donc oui, je m'en souviens, et puisqu'on est entre nous, et je vais vous faire une confidence. Parfois, je relis mes impressions d'initiation, et ça me fait sourire, parce qu'il y a finalement beaucoup de choses de vraies dedans. Et c'est quelque chose que je conseille d'ailleurs à nos jeunes frères, c'est garder vos impressions d'initiation et relisez-les dans 10 et 15 ans et vous serez surpris. La deuxième question, c'est sur la fraternité. J'avais dit à Lille que j'avais jamais été premier de la classe, mais que j'avais toujours été délégué de classe.
Et il y a une nuance, donc.
La nuance est lourde. Mais je crois que c'est vraiment dans mon état d'esprit. J'ai toujours aimé travailler pour les autres. À chaque fois que je suis rentré dans une association, 3 mois après, on me demandait d'être au conseil d'administration. Donc, je pense que ça fait partie, c'est très intime en moi, ce besoin de travailler pour les autres. Alors, bien évidemment, quand je suis arrivé dans un milieu comme la franc-maçonnerie, où, en plus de ça, il y a quelque chose qu'on trouve pas dans les associations, il y a quelque chose qu'on trouve pas dans la vie civile, c'est l'amour spontané des frères. Voilà, forcément, j'ai trouvé mon bonheur.
Tu as parlé de tradition, et puisqu'on parle de tradition, je sais qu'il y a un autre point qui est cher à ton cœur, c'est la transmission. Et Anna Arendt disait notamment, on ne doit pas rechercher forcément dans la transmission une idée théorique, mais plus exactement la succession des expériences vécues. Alors ma question est simple, c'est qu'est-ce que l'Alliance met en place pour garantir cette succession d'expériences vécues pour chaque initié à l'intérieur de la Grande Loge, quel que soit son rite?
Alors c'est quel que soit son rite, alors c'est déjà le premier travail de la Loge, bien évidemment, qui est le cocon du frère qui arrive et qui doit garantir cette transmission. On a aussi cette originalité qui nous distingue des autres grandes loges, sont nos maisons de rite. Et nos maisons de rite sont de formidables outils pour justement aider les loges à garder la pureté du rite, déjà, ça c'est très important. Et puis, dans un deuxième temps, à aider donc ces loges pour le bien des frères et proposer des outils et proposer des méthodes. Ce sont des séminaires, ce sont tout ce genre d'actions. La transmission, je pense que finalement, elle se fait presque naturellement. J'ai été préparateur il y a peu de temps dans ma loge pour une élévation. Et en mettant le compagnon dans la... Au rite français, on dit la chambre de réflexion et non pas le cabinet de réflexion. Dans la chambre de réflexion, je lui dis, je veux que tu me dises ce que t'a apporté l'apprentissage, ce que t'a apporté le compagnonnage et ce que tu attends de la maîtrise. Mais je veux que tu me dises ça chaque fois avec un seul mot. Et j'ai eu un cadeau ce jour-là parce qu'il m'a dit, pour la maîtrise, je vais pouvoir transmettre.
Et c'est bien la suite logique des choses. Et dans ton explication, tu rejoins ce que proposait notre ancien grand commandeur, il y a à peu près de cela un mois, notre illustre frère Henri Lussmann, en soulignant l'importance de la loge dans son intégralité et dans son ensemble, dans le cadre de la transmission. Et je crois que lorsque l'on parle quelquefois de loge souveraine, la souveraineté, ça consiste en ça. Ça veut dire, effectivement, la loge qui initie et la loge qui transmet. Je crois que c'est ça l'idée de base.
Je partage complètement ce point de vue avec toi.
L'Alliance, c'est quand même une des principales obédiences françaises. Il y a beaucoup de frères, un peu plus de 15 000, hein, si ma mémoire est bonne. Et donc, ça nécessite une organisation. Ça nécessite une structure. Ça nécessite des procédures. Alors comment on fait pour maintenir une communauté fraternelle, une fraternité à l'intérieur d'une structure et d'une organisation?
Je ne me suis jamais posé la question parce que j'ai l'impression que ça aussi c'est naturel. Alors justement, comme tu le disais, les loges sont souveraines. Donc c'est bien à elles d'organiser leur cocon. J'aime beaucoup ce terme de cocon pour les loges. Sur la souveraineté des loges, je donne souvent cette image. C'est que le jour où tu as passé ton permis de conduire et le jour où tu as eu ta première voiture, tu étais souverain derrière ton volant, tu pouvais aller où tu voulais. Mais il y a un code de la route. Et si tu sors de ce code de la route, on te retire des points. Alors chez nous, on n'a pas de patente à points, Mais on c'est a, pas mal, on ça, a quand même des règles à
ça
respecter.
Serait une innovation. La patente à point.
On va peut-être soumettre ça aux loges, parce que c'est elles qui décident lors du prochain congrès. Sur notre organisation, je pense qu'aussi que le fait que nous soyons une organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une armée de bénévoles, change énormément la mentalité de la structure Alliance. Puisque ce ne sont pas des salariés qui travaillent pour des frères, ce sont des frères qui sont au service des frères. Et ça, je suis sûr que ça redescend de façon naturelle. Cette idée-là redescend naturellement dans les loges.
Je te confirme. Je te le confirme parce qu'il ne faut pas oublier que même si Stéphane, moi et notre invité surprise appartenons à la juridiction, nous sommes également membres de notre loge symbolique et donc membres de l'Alliance, bien évidemment. Et bien sûr qu'on ressent ça. J'ai une autre question aussi parce que tu as parlé d'un point qui me semble extrêmement important et parfois un petit peu polémique. C'est l'alliance avec le temps présent. Alors moi, j'y suis assez sensible parce que je crois que on est assis sur un socle traditionnel que l'on doit impérativement protéger. On a la chance, dans les loges de l'Alliance, de bénéficier d'un environnement studieux, un environnement protégé qui favorise le travail intérieur. Mais je pense qu'on ne peut pas se priver de l'évolution de la pensée du monde. Mais ce n'est pas toujours quelque chose de simple, parce que pas toujours aussi facilement accepté. Alors je voulais savoir si, au niveau du bureau de l'Alliance, tout le monde partageait cet avis que tu as exposé tout à l'heure.
Alors tu fais une faute en parlant du bureau, parce que je te rappelle que le bureau est là pour gérer l'administratif. Donc tu devrais plutôt parler du conseil de Grande Loge.
Dont acte. Je prends note.
La complexité des organes de l'audience tout à l'heure.
Je ne te retire pas un point, mais c'est pas loin.
Hein. C'est pas loin.
Bon, sur ce sujet, nos rituels initiatiques, ils n'ont pas changé depuis le début de la franc-maçonnerie. J'ai même dit tout à l'heure qu'on avait retiré tout le décorum pour revenir à l'origine des rituels et à la pureté du rituel. Ce qui a changé, c'est pas le rituel, c'est les frères qui arrivent. Parce que les frères qui arrivent, c'est un peu comme mon Clovis de tout à l'heure. Les frères qui arrivaient il y a 300 ans, ils sont pas du tout dans le même environnement de société que les frères d'aujourd'hui. Un frère qui arrive aujourd'hui, il a tout de suite, ou il a l'impression d'avoir tout de suite parce que il va pouvoir aller sur Internet, il va pouvoir aller écouter un podcast de qualité, etc., etc. Donc il faut qu'on arrive à faire comprendre aux frères qui nous rejoignent qu'en fait, il est important de rentrer dans cette structure qui va les extraire un peu de ce monde trépidant, que le silence va servir à ça. Il va pouvoir retirer ses écouteurs. On est dans le bruit, on est dans la musique tout le temps. D'accord ? Donc, il va pouvoir, à un moment, se mettre hors du temps. Et je pense que, en 2024, c'est peut-être même plus important qu'en 1724. Seulement ça, il faut arriver à l'expliquer aux frères, enfin, aux profanes même, qui peuvent commencer à s'intéresser. Venez chez nous, vous aurez un... Je ne vais pas employer le terme de cocon, mais vous aurez cet endroit privilégié qui vous permet de vous mettre hors du temps. J'avais fait un jour un travail sur l'utilité du rituel et j'expliquais que justement, quand on regarde une convocation, eh bien, la convocation de ta dernière loge symbolique, si tu la compares avec une convocation d'il y a 200 ans, c'est la même chose. Donc on devient, j'espère que dans 200 ans, on aura les mêmes convocations d'ailleurs. On sera...
Je ne sais pas si j'aurais changé d'adresse encore. Mais...
Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on explique dans notre démarche pour les personnes qui voudraient nous rejoindre, c'est qu'on est un des seuls endroits, je ne connais pas les autres, où on peut s'extraire du temps, où on peut sortir de ce monde trépidant.
Mais sans se couper du monde extérieur et de son évolution. Mais pour ça, ça oblige à créer des espaces différents.
Tout à fait.
Tu avais, lors d'un entretien, eu cette phrase qui était la suivante. C'était Le grand défi de la franc-maçonnerie est d'être capable de se réinventer. Est-ce que tu peux nous préciser ta pensée à ce niveau-là ?
Tu es sûr que c'est moi qui ai écrit cette phrase ?
Écoute, en tout cas, je l'ai vu.
Cite tes sources, Claude.
Oui, bah, il faut qu'on se réinvente, mais je pense qu'il faut qu'on se réinvente. Alors, il ne faut surtout pas qu'on réinvente nos rituels. Je dis assez souvent dans les conseils de Grande Loge, arrêtez de me changer les rituels. Quand on déplace une virgule, on fait une faute après. Donc, arrêtez de me changer les rituels. En revanche, et ça rejoint un peu la question précédente, il faut qu'on se réinvente par rapport au message que l'on veut porter à l'extérieur. Le message qu'on veut porter à l'extérieur vis-à-vis des profanes, mais vis-à-vis aussi des autres grandes loges et du monde qui s'intéresse à la franc-maçonnerie. Moi, il y a quelque chose qui me perturbe toujours, c'est que quand on discute de franc-maçonnerie avec un profane, l'idée qui arrive, c'est Grand Orient de France. Mais c'est normal.
C'est un quasi-réflexe, c'est clair.
C'est un réflexe, mais c'est normal. Parce que c'est la plus vieille.
Ouais, il y a une antériorité, c'est sûr.
Il y a une antériorité, et c'est la plus importante. J'étais encore samedi avec des apprentis, je l'aurais fait.
Et c'est la plus visible, aujourd'hui.
Et c'est la plus visible, dans le paysage. Bien évidemment. Donc j'étais samedi avec des apprentis et des compagnons dans une conférence locale. J'ai listé les 10 premières obédiences françaises en disant celle-là elle est plutôt sociétale et celle-là elle est plutôt spirituelle. Et on s'aperçoit que les obédiences spirituelles sont nettement majoritaires en France. Donc il faut peut-être qu'on arrive à, justement, par cette transformation de la maçonnerie, je veux dire cette transformation de nos messages, à faire comprendre aux gens extérieurs à la maçonnerie que la maçonnerie, c'est pas toujours le Grand Orient de France. Même si, bien évidemment, je n'ai rien contre le Grand de France, c'est lui qui m'a donné la lumière.
Absolument.
C'est juste qu'à un moment, j'ai voulu faire de la maçonnerie, donc je les ai quittés.
Nous dérangeons pas de mal le Grand Orient de France, c'est clair.
J'aime
c'est
pas
clair.
Dire du mal des gens, mais bon, quand même. Donc, alliance, alliés, pour rassembler, il faut commencer par ne pas diviser. Or, lorsqu'on observe l'humain, il a plutôt tendance à diviser. Il a plutôt tendance à séparer ou même à détruire ce qui est beau et ce qui est bien. Nous, on a tendance, en maçonnerie, à penser que l'homme est perfectible. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un peu d'utopie dans cette réflexion ?
Moi, j'aurais tendance à dire, heureusement qu'il est perfectible. Imagine qu'il soit déjà parfait. C'est ça qui serait grave. C'est ça qui serait grave.
Il y aurait une grave crise d'identité au sein de l'obédience, là, c'est clair.
Alors, disons que l'histoire nous a démontré qu'hélas, il était peu perfectible.
Oui, mais on a toujours quand même des pistes d'amélioration, je pense. Et puis, on est une fois encore, on est en fraternité. Et je le vois, je l'ai vécu avec les élections. Il y avait 4 candidats, je vous le rappelle. Mais une fois l'élection passée, c'était terminé. Tout le monde a retravaillé pour le bien commun. Donc, je pense que ça démontre bien que même si nous sommes encore perfectibles, nous sommes peut-être un peu meilleurs quand même que les autres. Nous ne sommes pas dans un parti politique où on va se séparer, on va créer des courants parce que je suis pour Pierre, je suis pour Paul ou je suis pour Jacques. D'accord ? Une fois que c'est Jacques qui a été élu, eh bien tout le monde se remet avec Jacques. Et moi je suis ravi de travailler aujourd'hui avec les candidats qui sont présentés à l'élection. Ça prouve bien que nous avons cet idéal de fraternité. Je pense que ça, déjà, c'est une piste qui nous rend perfectibles.
Oui, puis on respecte là une tradition sur l'exemple que tu viens de donner. Il arrive qu'en loge, on puisse avoir des expressions différentes. Et lorsque l'orateur a fait ses conclusions, nous sommes tous d'accord. C'est la condition pour que l'harmonie règne. Donc ce que tu as exposé respecte complètement notre tradition. Quoi.
Je vais considérer que ton propos est le propos de l'orateur, je ne vais rien rajouter.
C'est l'avantage des présidentielles quand il n'y a pas de législative derrière. Voilà. On ne peut que se réunir derrière celui qui nous représente aujourd'hui.
Ouais. Tout ça nous fait une passerelle par rapport à la durée du mandat d'ailleurs, Stéphane.
Mais moi j'avais une question d'abord, on a parlé des profanes, on a parlé... de l'entrée en maçonnerie. Alors, les fins observateurs du PMF, hein, encore un acronyme, le paysage maçonnique français,
le FME,
parle d'une crise de vocation qui serait traversée
par la franc-maçonnerie aujourd'hui. Crise vérifiée statistiquement, notamment dans la sphère, j'allais dire, anglo-saxonne. Mais est-ce que tu partages cette analyse et surtout, est-ce que tu la constates ?
Très honnêtement, je ne sais pas si une crise de la vocation existe. Je vais regarder nos chiffres et nos chiffres sont relativement stables. Tu disais tout à l'heure, Claude, que nous étions 15 000, c'est vrai, c'est à l'épaisseur du trait. L'année dernière, nous avons été stables, on a fait plus 4 frères. Si on regarde les entrées et les sorties, on a fait plus de 4 frères. Donc on est stable. Je ne pense pas vraiment qu'on ait une crise de vocation. En revanche, ce qui m'inquiète un peu plus, ce sont justement les départs. Puisque nous sommes une grande loge qui initie bien, on initie à peu près... On est aujourd'hui sur le premier trimestre, on a initié 140 frères. C'est pas rien, 140 frères. En revanche, les départs, ça m'inquiète beaucoup plus. Et je pense que une raison des départs des frères est le manque de visibilité sur l'après-maîtrise. Un frère arrive, alors le soir de son initiation, on lui dit « Tu sais qu'un jour, tu seras le vénérable. » Alors là, on a peur. Et puis un jour, on devient le vénérable. On a moins peur. Et puis 2 ans après, on se dit « Finalement, j'ai fait le tour. » Donc on commence à trouver de bonnes excuses pour ne pas venir. Et puis, on abandonne un peu. C'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Je pense que si les frères ont une bonne information sur ce qui se passe après la maîtrise, dans les différentes juridictions. Je rappelle qu'on a une juridiction sur chaque rite. Alors, on peut remotiver le frère, et puis il est reparti pour 30 ans, de joie et de bonheur et de travail. Donc ça, c'est vraiment un chantier très important. J'étais hier avec les juridictions, avec les 7 juridictions, et là encore, on va mettre des choses en œuvre simples, pragmatiques, de façon à essayer de faire connaître, dès l'apprentissage, de faire connaître l'exhaustivité du rite et faire comprendre à un apprenti que son rite ne se travaille pas par 3 niveaux, mais par 33, 99 ou 7, ou ça dépendra des rites. Et ça, c'est pour moi une chose très importante pour essayer de retenir les frères. Donc pour répondre concrètement à ta question... Non, pas de crise de vocation. Moi, je le ressens pas comme ça parce qu'on initie toujours au même rythme. En revanche, il y a peut-être une crise de la lassitude d'un frère qui ne voit pas ce qu'il peut aller chercher après.
Alors là, tu évoques des solutions, j'allais dire, endogènes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des causes exogènes? C'est-à-dire qu'en fait, dans la préparation d'un profane, dans le premier contact qu'on a avec un profane, donc je dis bien dans le cadre d'un parrainage, est-ce que le fait de peut-être mieux lui expliquer dans quoi il s'engage, un peu plus concrètement, sans révéler bien évidemment les secrets de l'initiation, des cérémonies autres, mais de mieux le préparer à ce à quoi il s'engage dans la vie, est-ce que ça peut aussi participer à l'amélioration de ce taux de satisfaction ou du fait qu'on reste peut-être plus facilement? Et en plus, si on le conjugue avec ce que tu viens de dire sur cette meilleure connaissance des arcanes, ça ne peut être que bénéfique. Mais est-ce que tu penses aussi qu'il y a un rôle dans le parrainage?
Il y a forcément un rôle dans le parrainage. Je pense que... Alors ça, c'est un point légèrement négatif que j'attribuerais à certains parrains, c'est que le parrain, c'est pas seulement « j'ai un ami, je vais le faire rentrer, il est rentré, bienvenue mon frère, et à bientôt ». C'est pas ça un parrain. Un parrain, c'est quelqu'un qui s'occupe du frère, c'est celui qui vraiment l'accompagne, l'épaule, parfois même le porte, parfois même le rattrape, d'accord ? Pour reprendre un peu ce que tu disais. Bien évidemment, mieux informer le profane sur l'engagement, ce que c'est que l'engagement. On s'aperçoit que dans notre société, l'engagement, on devient de plus en plus consommateur. Ça se voit aussi dans le monde associatif d'ailleurs. On rentre dans une association mais on ne reste pas. Il est important qu'on dise qu'il y ait ce message envoyé au profane. Et il est important aussi que ce message ne soit pas donné uniquement par le parrain, ne soit pas donné uniquement par la loge, mais soit aussi donné par le grand maître. Et je suis en train de le mettre en place, et ça va le faire assez rapidement maintenant. Chaque nouvel initié recevra un mot manuscrit de la part du grand maître pour lui dire « Mon frère, bienvenue chez toi. Et on est là pour t'aider si besoin est. »
C'est bien une phase d'incarnation, en fait, qui peut-être effectivement pouvait manquer, oui.
Et le sortiment d'appartenance, non pas dans une loge, non pas dans un rite, mais dans une grande loge.
L'un n'empêchant pas l'autre, d'ailleurs. Bien au contraire, ça se favorise. Quelle est la moyenne d'âge des frères qui entrent à l'Alliance aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt vers le haut, vers le bas? Est-ce que ça bouge?
Alors, je n'ai pas cette information. Mmh. Je sais que la moyenne d'âge d'un frère,
oui,
d'accord, est de l'ordre de 56 ans. Ce qui est assez jeune.
Ah oui, oui, absolument.
Ce qui est assez jeune. En revanche, la durée de vie d'un frère, si j'ose m'exprimer ainsi, est de moins de 10 ans.
Ah oui.
Je vois que ça t'interpelle.
Oui, je confirme, moi aussi. Je confirme.
Moi aussi.
Si on fait le tour de la table, déjà, je pense qu'on explose les compteurs.
Sauf l'invité mystère, mais on ne peut pas révéler aujourd'hui. Pas tout de suite maintenant.
Non, je suis très très surpris parce que la durée de vie des frères que l'on connaît, notamment dans la juridiction, est bien supérieure, évidemment, à 10 ans. Et donc, ça veut dire quand même que les parcours sont quand même assez, assez restreints. Parce que 10 ans, c'est pas beaucoup en maçonnerie, quoi.
10 ans, c'est pas beaucoup, mais ça rejoint le point qu'on abordait tout à l'heure. C'est que si je ne vais pas voir ce qui se passe au-dessus, en 7-8 ans, peut-être 10 ans, j'ai fait le tour de ma maîtrise. J'ai déjà été vénérable. Je vous rappelle que, à l'Alliance, on change de vénérable tous les ans, voire tous les deux ans. Donc ça va assez vite. C'est pas comme dans d'autres obédiences où on est sur un plateau pendant 3 ans et là, il faut un plan de carrière pour espérer être vénérable à 70 ans. Mmh. Mais donc certainement que un frère qui a 10 ans de maçonnerie estime que c'est un vieux frère parce qu'il a fait le tour de sa loge symbolique,
où
il estime avoir fait le tour de sa loge symbolique.
Et comment ça s'ennuie? Mais ce que tu tiens comme discours est très, très nouveau. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a demandé à ce qu'il y ait un cloisonnement et qu'on ne dise pas aux frères des trois premiers degrés qu'il existait autre chose après. Alors que les anciens nous ont répété qu'un rite, ça se comprenait dans sa globalité. Donc il y avait un contresens que là, tu es en train d'effacer quand même, hein.
J'espère que ce ne sera pas le seul que j'effacerai pendant mon mandat.
Génial. Alors, un autre sujet, en lien avec ce qu'on vient de dire, plusieurs méthodes de recrutement ont été testées historiquement pour rapprocher les profanes de nos temples. Je reviens un peu sur les profanes. Mm-hmm. Notamment, par exemple, des conférences publiques, mm-hmm, des tenues blanches. Est-ce qu'on n'a pas tout simplement oublié un peu les fondamentaux? Donc, j'en reviens encore à mon bon vieux parrainage. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une crise du parrainage? Si on a besoin de faire ça, est-ce que ça ne démontre pas qu'il y a un problème de l'autre côté?
Là encore, je pense pas qu'il y ait une crise du parrainage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais samedi à une conférence locale. Et alors, dans les conférences locales, j'aime bien avoir un moment privilégié, la matinée, avec uniquement les apprentis et les compagnons. Donc ce sont les apprentis et les compagnons qui échangent avec le grand maître. Personne d'autre dans la salle. Il y avait une douzaine de frères. Sur cette douzaine de frères, 9 venaient de parrainage et 3 venaient de conférences locales. Donc je pense pas qu'il y ait une crise du parrainage. En revanche, ce qui peut exister, et moi je le vois parce que j'ai quitté le monde professionnel, et donc d'un seul coup, mon réseau de profanes s'est appauvri. Alors mon réseau de francs-maçons a augmenté, je te rassure. Mais mon réseau de profanes s'est appauvri. Et je pense que dans des loges où il y a beaucoup de seniors, eh bien on va avoir du mal à parrainer. Et c'est ces loges-là qu'il faut aider avec des conférences locales. Alors, je suis en train de mettre sur place, c'est pour aussi reparler de notre alliance avec les grandes loges. Je suis en train de mettre sur place une initiative et j'aimerais beaucoup... Alors, je suis en train d'en parler, mais cette grande loge va changer de grande maîtrise là prochainement, donc je pense que ça sera plutôt avec la nouvelle mandature que je pourrais mettre ça en place. J'aimerais beaucoup que l'on fasse des conférences locales avec 2 grandes loges. Alors vous allez me dire, tu es cannibale, Pierre, parce que le frère qui arrive, dans quelle grande loge va-t-il aller? Eh bien, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse des conférences locales avec la grande loge féminine de France, puisque comme ça, le frère qui a une amie, qui est intéressée, pourra rentrer à la grande loge féminine de France. Et la sœur qui a un ami, qui est intéressée, pourra rentrer chez nous. Et puis, accessoirement, On évitera la question qui se pose toujours dans ce genre de choses, de la petite main qui se lève à la fin de, au fond de la salle et qui nous dit « Mais vous n'êtes que des hommes et vous vous privez de la moitié de l'humanité, mais comment osez-vous ?»
J'allais être la petite main au fond de la salle, hein, je te préviens, ça allait, c'était prévu. Hein.
Donc, à ce moment-là, eh bien, c'est la Grande Loge féminine qui répondra à cette question. Voilà. Donc je pense que ça, c'est une initiative que l'on va faire. Il est hors de question, et je dis tout de suite, que l'on refasse, que l'on fasse des tenues communes avec la Grande Loge féminine de France. D'ailleurs, elles n'en ont pas forcément envie. D'accord ? En revanche, mutualisons nos efforts pour ce genre d'action.
Je vais être un peu provocateur. Lorsqu'on parle de ces conférences, elles sont également faites par les autres obédiences. Elles font la même chose. D'autres obédiences font des conférences, localement. Alors, est-ce qu'on n'a pas un risque à terme de se retrouver devant un supermarché d'initiation et que les profanes se disent « Bon, bah, alors voilà, je vais aller voir dans les rayons, puis je vais choisir... » Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de ce côté-là ? Et c'est pour ça que je parlais du parrainage, qui est peut-être, la seule vraie relation intime et de préparation d'un profane, plus que d'aller, j'allais dire, dans les rayons d'un supermarché. Je suis un peu provocateur, parce que je ne pense pas que ce soit dans l'esprit de ce que tu fais, mais... Est-ce qu'à terme, il n'y a pas ce risque-là ?
Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut le prendre. Il faut le prendre parce qu'il faut quand même que... Alors, moi, l'effectif de l'Alliance me va bien. On a dit qu'on était 15 000. Si quand je sors de mon mandat, on a encore 15 000, ça ne va pas me gêner. Ça me gênerait, là, je prends date, si on était 14 000. Là, ça me gênerait. Faut pas oublier non plus qu'on a un mode de fonctionnement qui marche bien à 15 000. Et il faudrait peut-être pas déstabiliser la Grande Loge en passant à 18 000 ou à 20 000. Parce que 18 000 ou 20 000, ça pose d'autres soucis, l'immobilier à approfondir, etc. Donc ça pourrait poser d'autres problèmes. Donc 15 000, on a grosso modo toujours été 15 000, enfin sauf à la création, mais ça fait maintenant quelques années qu'on est grosso modo 15 000. Et je pense que si c'est notre rythme de croisière, eh ben, moi ça me va bien.
Alors Pierre, une question aussi sur les statuts. Les statuts de l'Alliance ont mis en place dès sa création un mandat unique de 3 ans pour son grand maître avec une nécessité d'alternance entre les rites à chaque renouvellement. Est-ce que cette durée te paraît-elle suffisante pour mener à bien un projet ? Est-ce qu'on n'est pas finalement devant une contrainte paradoxale qui pousserait donc son titulaire plutôt vers le rôle du syndic que celui de visionnaire ? C'est encore de la provoque, mais bon.
Donc tu es en train de me dire qu'on voudrait... Il faudrait peut-être réfléchir à passer le mandat du grand maître à 3 ans renouvelables.
Ah non, moi je ne fais pas de... je pose des questions, moi.
Ouais, mais là, c'est une question bête encore. Tu m'avais dit une seule question bête.
Oh non, je peux en faire plusieurs, il n'y a pas de problème.
Non, sérieusement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On est dans la transmission, on en parlait tout à l'heure. Si un grand maître porte un projet, et si ce projet est ressenti comme important, comme nécessaire par les frères... J'imagine mal un nouveau grand maître arrivant en disant « on casse tout et on fait autre chose ». On est dans la continuité. Jean-René Dalle, un de mes prédécesseurs, a commencé les relations importantes avec les grandes loges internationales. Ça a été amplifié par son successeur, mon prédécesseur direct, Fred Picavet, qui a augmenter ce réseau de grandes loges et qui est même allé jusqu'à construire une confédération de grandes loges régulières. On est à l'initiative de ça. Et moi, je continue bien évidemment avec un magnifique chancelier qui m'aide beaucoup sur ce chantier. Donc, on voit bien que quand le chantier est important, il traverse les mandatures sans aucun souci. On est dans la continuité, on est dans la transmission aussi des dossiers et des actions. Et ce que je vois aussi dans cette possibilité de renouvellement pour travailler plus longtemps, c'est que à ce moment-là, le grand maître va rentrer en campagne électorale et il va plus travailler. Donc moi, je préfère travailler du premier jour au dernier jour de mon mandat, transmettre une grande loge en bon état de marche à mon successeur, l'aider comme je peux, mais pas avoir un mandat renouvelable. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit l'agenda d'un grand maître, 3 ans, je pense que ça suffit.
Alors justement, au terme de ton mandat, si on se projetait un petit peu, qu'aimerais-tu que l'on en conserve ? Quelles traces
souhaites-tu laisser dans l'histoire de l'Alliance ?
Je pense que je vais reprendre tes propos. Tu m'as dit tout à l'heure qu'on était dans une période charnière et que l'origine devait plus être le seul critère. On a partagé sur ce point et je pense que ça, c'est un point important. Mon point important, c'est de dire il faut impérativement que les frères aient un sentiment, un réel sentiment d'appartenance à l'Alliance. Ils appartiennent pas forcément à un rite. Ils appartiennent à un rite, mais ils appartiennent aussi à l'Alliance. Ils font partie de l'Alliance. Parce que ça, aujourd'hui, les maisons de rite sont primordiales dans notre organisation, mais elles ont eu quand même un peu, mais c'est un état de fait, ça n'a pas été voulu, le fait de cloisonner un peu notre grande loge, rite par rite. Il faut qu'on sorte de ce cloisonnement et qu'on voit la richesse de nos rites et qu'on se dise, je suis dans une grande loge qui travaille à cet rite, même si moi je travaille dans, plus particulièrement dans un rite. À ce sujet, on va innover un peu lors de la tenue de grande loge de notre convent qui aura lieu à Nancy au mois d'octobre. Et plutôt que d'avoir une planche de l'orateur si brillante, si brillant soit l'orateur et si brillante soit la planche, j'ai demandé aux maisons de rite de traiter le même sujet de façon à ce que ça donne envie et qu'on voit qu'il y a des différences. Tu n'as pas reçu la lumière de la même façon que j'ai reçu la lumière, et un frère qui travaille dans un rite anglo-saxon n'a pas reçu la lumière de la même façon que nous. Et ça fait partie des choses qui peuvent aussi peut-être donner envie. J'aimerais que les frères prennent l'habitude de se visiter, de comprendre que on est dans une grande loge multirite et que c'est dans cette grande loge que l'on travaille et qu'on est bien.
Merci pour ce petit scoop.
Oui, ce que tu recherches en fait, c'est une fierté d'appartenance.
Absolument.
C'est important.
Absolument.
Je suis fier d'appartenir à l'Alliance parce que c'est pas aussi fréquent que ça. C'est une grande loge vivante.
Alors, on va venir à notre visiteur mystère.
Ah, je me demande
parce que
qui
nous avons la chance d'avoir dans notre studio un frère discret et pourtant essentiel dans les rouages de ce programme, car il en est l'un des cofondateurs. Il s'agit de Guillaume Mignard. Bonjour Guillaume.
Bonjour, beaucoup de bruit pour une petite chose.
Mais non. Tu es à l'origine de Témoignages écossais. Tu as travaillé dans l'équipe qui a fondé cette émission. Tu es un habitué des studios de radio. Tu as travaillé dans ce média. Et nous travaillons ensemble depuis plusieurs années au développement des outils de communication de la juridiction. Alors merci de ta présence aujourd'hui. J'imagine que ça fait plaisir de te retrouver dans un studio de radio, non ?
Ça fait très plaisir, des souvenirs anciens, mais heureux. Mais voilà, je passe ponctuellement de l'ombre à la lumière pour mieux y retourner très très vite.
Bon d'accord, mais j'imagine que tu aurais bien une petite question à poser à Pierre.
Mais j'en ai même plusieurs. D'abord, je suis ravi que nous recevions le grand maître aujourd'hui, puis ravi aussi à titre de membre de l'obédience de la dynamique qu'incarne Pierre dans cette fonction. J'avais plusieurs questions, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Claude, et ce que tu disais précédemment, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette multiplicité des rites et cette incitation à voyager, une réponse à cette espèce de lassitude que tu évoquais pour les maîtres qui ont fait le tour du cadran et le tour des fonctions? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire ici pour dire, voilà, maintenant que vous êtes arrivé à la maîtrise, avec l'expérience qui est la vôtre, allez profiter, vous enrichir, approfondir vos recherches en frappant à la porte d'à côté?
Bien évidemment. Je parlais de moi. Initié au rite français, j'ai toujours travaillé au rite français, je continue de travailler au rite français. Alors, je pourrais dire même que j'ai fait le tour du rite français, puisque je suis arrivé tout en haut. Je continue à aimer aller dans ma loge symbolique. Je me fais d'ailleurs un point d'honneur à être dans ma loge symbolique malgré mon agenda tous les mois. Alors il y en a un peu d'ailleurs parce qu'ils disent « Mais nous on voit jamais le grand maître, tu promets toujours ton tablier de rite !» Donc j'aurais dit « Promis, un jour je viendrai en tant que grand maître. » Bon, l'anecdote est terminée. Je suis dans un chapitre, mais depuis peu, je me suis inscrit dans une loge au Standard d'Écosse qui est complètement différent de ce qu'on peut vivre au rite français, et ça m'a redonné un nouvel élan. Donc oui, bien évidemment que cette possibilité de travailler dans une loge, de connaître, d'avoir... Je n'aurais pas fait le tour, parce que je ne pense pas qu'on ait jamais fait le tour d'un rite. C'est aussi une de nos magies, c'est de dire « Ah, lui, il m'interpelle, même si j'ai déjà entendu traiter le sujet, il m'interpelle parce qu'il a ouvert une nouvelle porte. Bon. Mais ça fait quand même du bien aussi d'aller travailler dans un autre rite, et moi je suis ravi de temps en temps de porter le kilt.
Ça, j'ai jamais osé encore.
Moi, je fais partie de ces frères qui sont nés à l'Alliance, et donc je me reconnais dans le propos que tu évoquais sur l'importance de porter un projet, et un projet d'avenir. Et je fais partie de ces frères qui, je crois, sont majoritaires maintenant. Il me semble que la majorité des membres de l'Alliance sont nés depuis 2012. C'est aussi un signe des temps, et je pense qu'on peut s'en féliciter. Je voudrais revenir sur ta communication récente. Tu évoquais, dans ta dernière communication mensuelle, ta volonté de travailler sur une réforme des statuts de l'Alliance à l'occasion du prochain congrès. C'est un sujet compliqué, un sujet encore un peu douloureux. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur tes intentions et ce que tu entends par cet aménagement des statuts?
Alors, tu as raison sur un point, c'est qu'aujourd'hui, les frères nés à l'Alliance sont supérieurs en nombre aux frères historiques. Et il y a même un chiffre qui est notable, c'est que, et bien évidemment, de plus en plus, et je crois que tu en es l'exemple, bien de plus en plus de vénérables frères sont nés à l'Alliance, ce qui prouve bien que ça fonctionne, que ça marche, et que les frères ont envie de travailler pour le bien de notre grande loge. Alors, les statuts. Les statuts, oui, il faut modifier certains points des statuts. J'en suis convaincu. Faut pas faire de réforme. Ça sert à rien de rajouter un truc, ça sert à rien de tout retirer, etc. Mais maintenant que ça fait 12 ans qu'on pratique les statuts, qui ont été écrits par nos frères fondateurs, je dirais même dans l'urgence, etc., et qui sont remarquables, parce qu'on travaille avec eux depuis 12 ans, et il n'y a pas de crise majeure, d'accord ? Donc ils ont quand même fait un travail remarquable. Mais il y a quand même un toilettage à faire. Je vais te donner un exemple, il y a quelques incohérences. Si tu prends l'installation du grand maître, c'est un sujet que j'ai vécu il y a peu de temps. Si tu regardes le règlement général, dans le règlement général, on dit que le grand maître est installé en janvier, c'est ce qu'il y a eu. Si tu prends les statuts, on dit que le grand maître est installé dans la foulée de son élection. Bon, c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on corrige de façon à simplifier. Il faut aussi qu'on simplifie le fait d'avoir des statuts où on parle de maçonnerie et un règlement général où on parle du civil. Faut qu'on remette tout ça à plat. Donc ça sera pas une réforme des statuts, c'est plutôt une mise en adéquation des statuts. Il y a certainement des sujets à aborder, comme je vais revenir sur l'élection du grand maître, mais c'est quelque chose que j'ai vécu il y a peu. Il faut qu'on revoie ce processus, non pas le processus électoral, c'est impératif que les loges votent pour le grand maître. Ça, on va pas le changer. Mais il faut peut-être qu'on regarde ce qui se passe dans la période électorale. Pour simplifier, je vous rappelle que quand un candidat avant que la profession de foi soit en ligne, le candidat n'a pas le droit de dire qu'il est candidat, et une fois que la profession de foi est en ligne, il doit se taire. Je pense qu'il y a peut-être des choses à aménager, mais faudra faire attention. Alors moi, je voudrais faire un processus un peu innovant dans notre grande loge, mais je l'avais déjà aussi écrit dans ma profession de foi. Même si c'est qu'un toilettage, je veux pas qu'on fasse un toilettage des statuts en chambre et qu'un jour on arrive devant les frères en disant « Eh, vous avez vu, c'est beau, allez-y voter ». Je ne veux pas ça. Je veux que sujet par sujet, on propose plusieurs options aux frères et que ça soit les loges donc qui décident de quelle option elles vont prendre pour ce sujet. On fera ça certainement, je l'espère, au prochain congrès de Nancy. Et après, on n'aura plus que de la rédaction à faire, mais après, c'est de la mise en forme. Ce qui est important, c'est le fond que les frères veulent. Et après, on fera de la mise en forme. Donc, non à une réforme, oui à un toilettage, et en concertation, en amont, avec les frères.
Merci, merci Guillaume. Ah, tu reviens quand tu veux, Guillaume. Hein.
Merci Stéphane.
T'es un peu chez toi quand même.
Hein. Je vais prendre goût.
Alors, Pierre, nous arrivons au terme de ce podcast. Et nous souhaitons te soumettre au fameux questionnaire de Proust. Tout le monde y est passé, hein, je crois. Peut-être à l'exception d'un invité sur les 30 que nous avons
Proust, eu. Proust lui-même.
Proust,
il n'a pas voulu, il a refusé. Oh, celui-là, alors.
C'est l'humour de Claude. Alors que chaque invité, donc, affronte vaillamment, n'est-ce pas? Alors, es-tu prêt à cette ultime épreuve que le profane appelle moment de vérité?
Eh bien, écoute, ai-je le choix?
Pas vraiment.
Bon, alors on y va.
Puis je pense que tu l'as préparé un petit peu quand même. Tout n'est pas.
Non, c'est l'humour de
c'est
Stéphane.
C'est difficile de. Oui, d'accord, merci Claude. Un partout, la balle au centre. Bon, première question, Pierre. Quel est le principal trait de ton caractère?
Alors, je suis quelqu'un de déterminé. je sais où je veux aller, je le dis, parce que je rappelle que ma feuille de route, ça sera ma profession de foi. Donc, je le dis. Et maintenant que les frères ont dit « Ok, on va avec toi », on va y aller. D'accord ? Donc, je suis quelqu'un de déterminé. En revanche, je m'arrange toujours à faire aboutir mes idées dans la concertation.
Quelle est ta vertu préférée ?
Alors, au rite français, les hauts grades s'appellent les grades de sagesse, et j'aime beaucoup ce mot.
Et qu'est-ce que tu détestes le plus ?
La vulgarité. Alors là, je ne supporte pas la vulgarité.
Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ou une femme ?
L'humilité. L'humilité parce que j'ai souvent rencontré des gens, alors que ce soit dans le monde maçonnique, dans le monde professionnel ou dans le monde associatif où j'ai pas mal travaillé, j'ai souvent rencontré des gens très intelligents, beaucoup plus intelligents que moi, qui étaient humbles. Et du coup, par leurs propos, ils me rendaient intelligent parce qu'ils me disaient des choses compliquées avec mes mots. Donc j'arrive à les comprendre, moi qui n'étais que délégué de classe.
Quelles sont les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence ?
Alors, on a le droit de faire des fautes. Donc j'irai en fait les fautes liées à l'ignorance.
Quelle est la qualité principale requise pour conduire et mener à bien un projet spirituel collectif ? J'allais dire une obédience.
Alors là, il n'y a qu'une réponse, c'est aimer ses frères, et je les aime.
Quelle est ton idée du bonheur ?
Mon idée du bonheur, c'est finalement ma vie. J'ai eu des moments tristes dans ma vie, bien évidemment, comme tout le monde, mais j'ai aussi beaucoup d'éléments de bonheur. J'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé, un petit-fils en bonne santé. Je pense très souvent à nos frères ou à nos proches qui ont des soucis avec leurs enfants, des soucis de santé, voire ceux qui ont perdu leurs enfants. Je crois qu'il n'y a pas pire cauchemar que cela. Donc je pense souvent à ça. Je suis très heureux dans ma vie, j'ai une vie professionnelle épanouie. En ce moment, j'ai une mission qui m'occupe un peu, mais qui me passionne. Et puis quand je rentre parfois à la maison, je retrouve une femme que j'aime. Donc ma vie, c'est du bonheur.
Quel est ton héros favori dans la mythologie ?
Ah, Ulysse. Ulysse qui a fait plein de voyages initiatiques et finalement qui est rentré à la maison après. Et... Oui, même tout gosse.
Lui aussi, il a retrouvé une femme qu'il aimait.
Et en plus, il a retrouvé sa femme à la maison qui l'attendait impatiemment. Alors Damien ne tricote pas. Ou...
Non. Oh, ça ne tient qu'à un fil.
Oh, bravo, bravo. Merci. Ouais. Alors enfin, et dernière question, Pierre, qu'est-ce que la transmission pour toi ?
Alors, la transmission, c'est un partage. C'est partager son savoir, c'est partager son envie, c'est partager ses passions. Mais il y a un point qui est important, c'est de jamais être dogmatique.
Pierre, un grand merci pour ta participation à Témoignage écossais et à ce magnifique exemple d'ouverture et de partage. Nous avons été très honorés de ta présence aujourd'hui et nous te souhaitons un mandat à la fois serein et fondateur donc.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Déjà de ce message de conclusion, je vous remercie de m'avoir invité et j'espère qu'on n'aura pas perdu trop d'auditeurs pendant cette émission et qu'ils auront aussi entendu ta conclusion.
Au contraire, oui, j'espère aussi. Ça veut dire qu'ils seront allés jusqu'au bout du
podcast. On n'aura pas absolument.
Avant de clore cette émission, Claude, je suis sûr, c'est notre petit jeu à nous.
Oui, tout à fait.
Tu as une dernière question.
Ah oui,
on ne va pas se quitter comme ça.
Une question de curiosité. Il y a beaucoup d'Écossais dans l'Alliance, beaucoup. Ils sont réputés pour avoir un mauvais caractère. Tu as dû remarquer.
Et tu es bien placé pour le savoir.
Je suis bien placé pour le savoir, effectivement. Alors, entre nous, le fait d'être d'un autre rite pour parler avec les Écossais, inconvénient ou avantage ?
J'aurais envie de dire ni l'un ni l'autre, mais peut-être un avantage. Parce que finalement, c'est un peu comme les rites, je disais tout à l'heure que j'emmenais mes compagnons voir une cérémonie parce qu'on disait la même chose autrement. Et finalement, quand je discute avec Jack, que tu connais un petit peu, je crois.
Je crois aussi. Ouais.
Quand je discute avec Jack Chopin-Ferrier, on n'a peut-être pas les mêmes mots, mais on a la même vision et puis on a le même objectif. Et l'objectif, c'est le bien des frères. Et que les frères soient heureux de maçonner chez nous.
Bien sûr. Et on est tous venus du même point. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'on n'avait pas reçu la lumière de la même façon. Mais tous, on a dit à un moment donné, nous sommes dans les ténèbres et nous cherchons la lumière.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci à vous,
Quelle
mes frères.
Conclusion, il est trop fort ce Claude. C'était Témoignage écossais, saison 5, épisode 3. Merci à tous ceux qui contribuent à cette émission, sur les ondes et dans l'ombre, et de temps en temps à la lumière, notamment Claude Guichard, Stéphane Demazur, Guillaume Mignard donc, et comment l'oublier, Julien Riquier, l'homme de l'Alliance Sonore, qui contribue à la qualité auditive de notre œuvre collective. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de Témoignage écossais.